Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur la totale de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, élément de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Bonjour Madame Faïda Chantal Moulenga Biuma.
Bonjour Monsieur Guy Maté et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Blaise Zainda, journaliste indépendant, il est manager des médias. Bonjour Blaise Zainda.
Bonjour Guy Maté, bonjour à Chantal Faïda, activiste pour le droit humain.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Faït, il est journaliste à la RTBF. Bonjour Benoît Faït.
Bonjour Guy, merci de me recevoir. Bonjour à tous les invités ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zainda, journaliste indépendant. Il est manager des médias. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est membre de la société civile. Elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG Ouema Asbel, spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Faït, il est journaliste à la RTBF. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou, ses derniers appels au dialogue et à un sursaut d'honneur afin de préserver l'unité et l'intégrité du pays. Interdiction par le CESAC de la diffusion des informations liées à Joseph Kabila et au PPRD. Et enfin, situation humanitaire des populations retournées et déplacées dans la province du Nord Kivu. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la démarche de certains élus américains qui demandent des garanties de transparence pour sceller l'accord minier entre la RDC et les États-Unis. En effet, 5 membres du Congrès américain viennent d'écrire à Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison-Blanche, révèle Radio France Internationale. Dans leur lettre, ces élus posent une question simple. Que contiennent exactement les discussions entre les États-Unis et la RDC sur les minerais? Ces élus s'inquiètent, disent-ils, du manque de transparence sur les conditions d'accès aux ressources congolaises, mais aussi sur les manières dont ces richesses seront gérées. Ils préviennent, sans garantie claire, ces partenariats pourraient aggraver les conflits et la corruption au lieu d'apporter la paix et le développement. En RDC aussi, les interrogations se multiplient. Qui négocie au nom du pays? Quelles sont les offres faites aux Américains et à quelles conditions? S'interroge Jean-Pierre Okenda, il est chercheur sur la gouvernance minière. Blaise Zainda, les alliés américains et même la société civile congolaise s'interrogent sur les discussions en cours entre la RDC et les États-Unis qui devront en principe aboutir à un accord minier. Comment vous réagissez à cette démarche de ces alliés américains?
Bon, il faut d'abord retenir en premier lieu que c'est toujours un atout pour un pays de disposer des partenaires qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, permettre son développement par l'achat de minéraux qui sont l'émanation de son sous-sol assez riche. Et si la République démocratique du Congo dispose des paliers, si pas d'itinéraires beaucoup plus clairs, transparents, nous permettant
de mieux vendre nos minerais sans passer par des personnes interposées et à des prix qui peuvent, de manière concurrentielle, permettre à ce que nous puissions relever notre économie, ce n'est qu'une bonne chose. Mais il faut relever que le secteur minier est un secteur porteur de beaucoup de richesses, mais malheureusement, en République démocratique du Congo, il apparaît comme étant un marché qui offre aussi des opportunités à des personnes qui ne sont pas très rétraçables en ce qui concerne le mécanisme de transparence minier. Et alors, pour que l'on puisse effectivement mettre de l'ordre dans cet aspect des choses, et c'est de manière légitime que ces élus américains ont demandé à ce que nous puissions disposer de éléments beaucoup plus probants et transparents, prouvant que les choses vont se passer dans l'ordre dans les respects de l'art.
Merci, Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Ces élus s'inquiètent du manque de transparence sur les conditions d'accès aux ressources congolaises, mais aussi sur la manière dont ces richesses seront gérées. Et Madame, il est dit que ce genre de processus, n'est-ce pas, qui doivent aboutir à ce type d'accord, ont souvent la réputation d'avoir un caractère confidentiel. Est-ce que ces parlementaires pourraient un jour obtenir les réponses à leurs questions quand on voit, n'est-ce pas, l'opacité qui entoure ces négociations?
Merci beaucoup à Radio Okapi pour l'honneur de l'invitation. Je pense que c'est un signal fort des enjeux au niveau international, l'implication des parlementaires américains dans les processus de reddition de comptes et de transparence des ressources naturelles en RDC. Cela soulève beaucoup d'espoir parce qu'on a vécu par le passé des contrats léonins ou des contrats opaques que notre pays a signés avec d'autres États, et aujourd'hui voir que c'est l'affaire d'autres citoyens du monde, avant de pouvoir contractualiser, de signer des accords, on a besoin d'une transparence et également avoir un arsenal de documents ou de publications de contrats. Donc ça, c'est vraiment une exigence qui est unanime et même obligatoire avant de pouvoir évoluer. On a besoin de connaître l'intégralité des termes de contrats parce que ce sont nos ressources en tant que citoyens congolais. Nous devons être au courant. Nous devons également connaître les mécanismes de suivi des revenus qui seront générés de par cet accord et voir la traçabilité jusqu'au versement dans les trésors publics. Nous avons également besoin de clauses robustes pour que les droits humains des communautés locales soient respectés, beaucoup plus en ce qui concerne l'environnement. On n'aimerait pas qu'il y ait ceux qui bénéficient plus et ceux qui perdent, parce qu'on a l'expérience dans plusieurs régions, dans plusieurs territoires du pays où les ressources naturelles sont extraites. Il n'y a pas de développement qui suit, alors qu'il y a quelque chose qui est réversé au trésor public. Donc on a besoin vraiment de cette reddition de comptes. Cet appel devait venir des parlementaires congolais, mais comme ça vient des parlementaires américains, nous saisissons l'opportunité pour demander au gouvernement de pouvoir rendre transparent ces processus pour que ça puisse profiter à tout le monde, qu'il n'y ait pas d'opacité.
Merci. Benoît Faït, ces parlementaires américains préviennent en affirmant que sans garantie claire, ces partenariats pourraient aggraver les conflits et la corruption au lieu d'apporter la paix et le développement. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui, je partage cette opinion, d'autant plus quand on voit réellement qui est Donald Trump, le président des États-Unis. J'ai pour ma part très très peu de doute quant au fait que l'objectif de Donald Trump, de son côté, quand il accepte cet accord, n'est pas réellement d'apporter la paix et le développement. Si Donald Trump était intéressé par la paix et le développement, on se serait déjà rendu compte depuis bien longtemps. Je pense que Donald Trump agit comme il le fait toujours, avec des intérêts de businessman, en cassant les codes. N'oublions pas non plus que Donald Trump a une politique, pour l'instant, aux États-Unis, qui inquiète beaucoup de monde. Certains considèrent que les États-Unis ne sont plus une démocratie. Ils voient beaucoup d'atteintes contre les droits fondamentaux. Certains parlent même de fascisation de l'État américain depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Donc, pour ma part, moi j'ai beaucoup de doutes quant aux motivations de Donald Trump là derrière. Alors que certains élus s'en émeuvent, c'est une chose, mais est-ce qu'ils vont pouvoir convaincre le président? J'en doute fortement. Rappelons aussi que du point de vue de la République démocratique du Congo, cet accord est avant tout présenté comme une monnaie d'échange, en fait, pour essayer de s'allier aux États-Unis de Donald Trump dans l'objectif principal de faire pression contre la FCM23 et plus directement sur le Rwanda. Donc dans cette perspective, moi j'ai très peu confiance dans une possibilité d'obtenir de la transparence France sur ces accords, et d'autant plus quand on voit aussi la personnalité de Massad Boulos, qui est lui-même très opaque, hein, son profil pose beaucoup de questions, on se demande un petit peu comment il est arrivé là, si ce n'est que par des liens personnels avec Donald Trump. Son CV semble finalement, il a clairement un carnet d'adresse, oui, mais il a un CV assez court. Donc voilà, ce sont beaucoup d'éléments qui pour moi suscitent plus de questions que de réponses.
Merci, on va prendre une petite pause en écoutant Mokili Zungulouke d'un Pompo Loaï dans l'orchestre Tiers Monde Coopération, et on se retrouve juste après.
no hey hey.
C'était Mokili Zungulouke, composition d'un Pompo Loaï sorti dans l'orchestre Tiers-Monde Coopération en 1985. Un Pompo DS Loaï, considéré comme l'un des meilleurs saxophonistes de l'histoire de la musique congolaise moderne, nous a quitté le 21 janvier 1990 à Kinshasa. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. L'opposant politique Martin Fayoulou recommande au président de la République de privilégier le dialogue pour une cohésion nationale en vue de faire face aux multiples crises que traversent les pays. Pour ce faire, il propose à Félix Tshisekedi d'engager une concertation avec les évêques de la Cinco et pasteurs de l'SSC afin de s'aligner à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. C'est l'essentiel de la rencontre de ces deux hommes politiques jeudi 5 juin au Palais de la Nation, ici à Kinshasa, quelques jours après la demande publique de l'opposant de rencontrer le chef de l'État. Blaise Zaïnda, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes manager des médias, vous avez souhaité nous parler justement de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou, qui appelle au dialogue et à un sursaut d'honneur afin de préserver l'unité et l'intégrité du pays. On vous écoute.
Oui, estimé confrère Guy Maté, en fait, je voulais évoquer le sujet au regard de la nécessité qui semble être prioritaire en République démocratique du Congo de retrouver la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'en ce moment, qu'on ne se voile pas la face, il y a ces Congolais qui ne peuvent pas quitter un point X vers un point Y pour des raisons qui sont évidentes. Alors, plusieurs partenaires dont le Qatar, l'Angola, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, en tout cas tout le monde veut que nous puissions retrouver cette paix-là. Mais cela a des implications sérieuses sur la manière dont nous-mêmes, Congolais, percevons les différentes voies devant mener à la paix. Pour le cas d'espèce, nous avons vu que les prélats catholiques et les responsables religieux protestants ont mis en place un plan, un pacte social pour la paix. C'est le pacte de la Cinco-SCC, lequel pacte devrait parvenir à faire en sorte que tout le monde se mette sur une table pour parler profondément des problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Et nous avons été surpris par, pas surpris parce que, au regard de la gravité de la situation, le président a décidé, Martin Fayoulou, l'opposant congolais, a estimé qu'il fallait parler. Il s'est adressé aux Congolais et a tendu la main à Félix Tshisekedi, le président de la République, qui 72 heures après, a répondu et l'a reçu hier au Palais de la Nation. Mais alors, ce que je voudrais vraiment signaler, c'est que moi, j'ai noté qu'effectivement, il évoque, lui, Martin Fayoulou, le camp de la patrie, au regard du fait que le pays est en danger, mais il a aussi relevé qu'il y avait une nécessité de répondre à la démarche de la CENCO. Et sa démarche mène vers un dialogue. Mais il ne faudrait pas que nous soyons dans une situation où il y a, d'une part, les anges, et d'autre part, les diables. Sinon, on ne va pas sortir de la situation. Il faut mettre en place tout le mécanisme, y compris ceux qui ont déjà existé bien avant, afin que les Congolais, de toutes parts, du moins les acteurs politiques, ceux qui sont en dehors du pays, ceux qui sont à l'exil, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, que tout le monde se mette autour de la table pour que nous évoquions les vrais problèmes du Congo. Parce qu'il est de ses enfants, la population majoritairement jeune. Il faudrait que ces jeunes-là puisse avoir un pays où il fait beau vivre. Il ne faut pas que ce soit un pays où il y a une récurrence des conflits armés, une récurrence des conflits politiques. Et cela doit passer par un dialogue franc devant impliquer tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'une part un bloc ouest, d'autre part un bloc est. Il faut qu'il y ait un seul bloc, c'est le bloc Congo.
Est-ce que ce n'est pas justement à cause de cela que Martin Fayoulou propose au chef de l'État, n'est-ce pas, de tenir compte de l'initiative des évêques de la Cinco et des pasteurs de l'SSC, parce que cette initiative prône un dialogue inclusif?
Effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai relevé que, parce que d'une part, il est de ceux qui se confortent du fait que voilà, ça fait que voilà, deux frères d'une même église, Philadelphie et tout ça, qui serait... Je crois que c'est minimaliser un peu le problème. Il faut qu'on voit le problème beaucoup plus haut que ça. Il faut que le problème prenne en compte la nécessité de disposer d'une démarche globale, celle mise en place par la CENCO et l'SSC, elle est effectivement intégrale et globale. C'est cette démarche-là que promeut, à mon humble avis,
Martin Fayulu et sur laquelle tout le monde devrait déboucher pour que nous puissions parler du Congo en des termes beaucoup plus vrais. Comme l'avait dit Lumumba, je crois que l'histoire du Congo doit s'écrire ici en République démocratique du Congo et les prélats catholiques et les pasteurs protestants sont dans cette logique.
Et vous pensez que Martin Fayulu sera écouté parce que on se rappelle que l'initiative de l'SSC5O n'avait pas, n'est-ce pas, obtenu l'unanimité au sein de la classe politique congolaise et beaucoup plus du côté de la majorité au pouvoir qui semblait être réticente, qui semblait, n'est-ce pas, se méfier de cette initiative des évêques. Vous pensez que Martin Fayulu sera...
Oui, bien, Martin Fayulu en est promoteur. Vous avez vu la signature intervenue il y a peu sur un document de certaines personnalités politiques qui a appuyé la démarche de l'SCC et de la CENCO. Il en est signataire et maintenant qu'il a estimé qu'il fallait aussi... Peut-être moi je prends cela comme étant une sorte de pression qu'il exerce au fin que le président réponde rapidement aux aspirations de la CENCO en faisant en sorte que tout le monde puisse se ranger derrière cette démarche-là. Donc moi je crois que le président Martin Fayulu de décider est en train ou devrait plutôt mener une démarche vers la conclusion de cet accord-là, c'est-à-dire de cette démarche-là, plutôt que d'être dans une posture que d'aucuns sont, lui ne l'a pas dit clairement, il ne l'a pas du tout dit, mais d'autres pensent que voilà, ce serait du genre partage de poste qui viendrait par après, tout ça. Je ne le pense pas être dans cette logique-là des premiers ministrables, ainsi de suite, non. Moi, je crois qu'il est dans une logique de paix. Et c'est cette logique-là qui doit nous sortir du gouffre en ce moment.
Merci. Benoît Faït, vous êtes journaliste à la RTBF. À votre avis, Martin Fayulu jouerait sa propre carte ou il serait en train de jouer la carte de la CENCO-SCC?
Bah, écoutez, comme vient de le dire ton frère, je ne sais pas à ce stade-ci si Martin Fayulu cherche un poste, l'avenir nous le dira très certainement. Moi, je sais juste que j'ai rencontré Martin Fayulu à Kinshasa il y a quelques mois, c'est au mois de février, et à l'époque, lors d'une longue interview qu'il m'a accordée pour la RTBF, il s'est montré très 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 critique à l'égard du président Félix Tshisekedi. Il rappelait, il se présentait déjà comme le président élu, hein. Vous savez, Martin Fayulu se présente comme le président élu en 2018. Il m'a expliqué en long et en large les tractations qui avaient eu lieu à l'époque, selon son témoignage, pour l'empêcher d'accéder à la présidence. Il s'est montré très virulent à l'égard de la gestion de l'État par le gouvernement actuel, parlant notamment aussi des dérives des tribalistes, hein, donc avec une grande crainte, disait-il à l'époque, de voir Kinshasa à feu et à sang entre différentes factions. Il citait notamment le rôle néfaste joué par les forces du progrès et d'autres milices apparentées. Donc là, je réalise aujourd'hui qu'il tend une main. Alors, d'une part, on peut se dire que c'est ce qu'on attend d'hommes politiques, en fait, c'est de pouvoir prendre de la hauteur, de chercher de la conciliation, et de ce point de vue-là, je dois reconnaître une certaine constance chez Martin Fayulu dans le ton qu'il a utilisé pour communiquer. Il n'a pas été... il s'est posé finalement en rassembleur, je n'ai pas entendu prononcer d'invective réellement, ni à l'égard de Corné Nanga, ni à l'égard de Joseph Kabila. Il les a interpellés directement en leur faisant passer un message, mais peut-être que c'est finalement de ça dont on a besoin aussi aujourd'hui au Congo, c'est d'avoir des individus qui sont capables de maintenir un niveau de dialogue, alors que ce dialogue semble être rompu à plusieurs endroits, et on reviendra sans doute sur ce point-là dans le courant de l'émission. Donc je vous dirais, là, quelle carte joue réellement Martin Fayulu? L'avenir nous le dira, est-ce qu'il obtiendra un poste? Si oui, qu'en fera-t-il? Il faut garder un petit peu les yeux ouverts et observer ce qui va se passer.
Merci Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, vous êtes membre de la société civile, vous êtes militante des droits spécifiques des femmes, vous êtes également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, Asbel spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. Peut-on reprocher à Fayulu d'avoir pris cette initiative d'appeler au dialogue pour préserver l'unité du pays?
Le seul reproche qu'on peut faire au président Martin, c'est les temps qu'il a pris avant de pouvoir se rapprocher du président en exercice thérapeutique démocratique du Congo. Mais je dois saluer ses pas franchis qui est un signe de désescalade et de maturité politique parce que on se souvient qu'il y avait des tensions post-électorales entre les deux personnalités, mais aujourd'hui, on a intérêt à acheter la guerre pour faire face aux menaces existentielles que la République démocratique du Congo doit pouvoir trouver des solutions de manière urgente, parce que beaucoup de vies ont été perdues face à la crise d'agression, la crise sécuritaire qui ne cesse d'endeuiller la RDC. Mais pour les prochaines étapes, je pense qu'on doit pouvoir établir
établir un cadre de dialogue permanent sur les grandes questions nationales avec toutes les personnalités. Parce que Martin Fayulu a fait les premiers pas. On aurait souhaité voir les anciens premiers ministres, les anciens présidents des chefs des corps. Il y a beaucoup de sagesse dans la classe politique congolaise qu'on n'a pas encore sollicité pour trouver la paix, pour retrouver les pistes de paix en RDC. On doit pouvoir prendre en compte les préoccupations de l'opposition concernant la gouvernance, la sécurité et les réformes institutionnelles. Donc l'opposition a son rôle dans une démocratie, beaucoup plus pour la RDC, qui est dans une jeune démocratie encore fragile, mais qui a besoin de soutien de tous. On doit aussi solliciter les forces vives de la nation par rapport à la crise actuelle, principalement la société civile, les confessions religieuses et les experts. Donc on a besoin que toutes ces voix soient entendues par les présidents de la République, parce que ces voix s'expriment, mais on n'a pas encore vu la réaction du président pour entendre ces personnes aussi. Donc on a besoin, avant de pouvoir aller sur la table des négociations dans le cadre du pacte social, qu'on puisse aussi recevoir ces personnalités, ces sagesses congolaises, pour qu'elles aussi puissent exprimer directement leur point de vue pour la paix en République démocratique du Congo.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 10 juin dernier, c'était le jour anniversaire de naissance de Jean Bedel Mpiana, alias J.B. Mpiana. C'est chanteur, danseur, auteur-compositeur, et il est leader de l'orchestre Wenge Musica BCBG. Il est l'un des cofondateurs de Wenge Musica 4x4, Bon Chic, Bon Genre. Et à cette occasion, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Qui n'est bougé. On revient juste après.
Elle s'appelle la même petite Marie-Neige Beloko Chuma. Thank you.
L'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la démarche de certains élus américains qui demandent des garanties de transparence pour sceller l'accord minier entre la RDC et les États-Unis. Nous avons également analysé la rencontre jeudi 5 juin à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou. Pour participer à cette émission, Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma, elle est membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes, elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBEL, spécialisée dans les questions des gouvernances et des droits humains. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, elle est journaliste à la RTBF. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, Christian Bossembe, interdit aux médias et aux organes de presse de diffuser ou de publier des informations sur les activités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, basé à Goma, au Nord Kivu. Pour le président du CESAC, il s'agit là d'une mesure conservatoire qui ne constitue ni une atteinte à la liberté d'expression, ni une forme de censure. Cette décision intervient après les messages du président honoraire Joseph Kabila du 23 mai dernier et les consultations qu'il a initiées quelques jours après son installation à Goma, avec notamment les chefs religieux et traditionnels locaux sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président du CESAC interdit également la couverture des activités politiques lié au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en sigle. Benoît Faït, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette interdiction par les CESAC de la diffusion des informations liées à Joseph Kabila et au PPRD. On vous écoute.
Oui, oui. Écoutez, revenons peut-être tout d'abord sur l'argument avancé par le président du CESAC. Donc il dit que le PPRD est allié à un groupe terroriste et que les messages des élus du PPRD dans les médias sont donc de nature à troubler l'ordre public. Mais il faut remarquer que ces mesures vont très loin. J'ai sous les yeux le document qui a été édité par M. Bossembe Christian. On dit en l'article 1, ils sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 90 jours, les activités médiatiques du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. En son article 3, ça va même plus loin. On précise qu'il est formellement interdit de diffuser, relayer, commenter, promouvoir ou médiatiser sous quelque forme, que ce soit les activités, déclarations, messages, images, slogans, réunions, interviews ou manifestations du dit parti politique. Bref, ce qui est imposé ici, moi, ça me semble être en fait le blackout total sur toute information concernant le PPRD. Alors on sait que le PPRD et Joseph Kabila sont considérés comme des alliés du M23, AFC, considérés comme un groupe terroriste par le gouvernement, mais je pense qu'il reste malgré tout important de pouvoir maintenir la population congolaise informée des activités du PPRD sans pour autant peut-être lui donner la parole, mais faire le blackout total, c'est pour moi aller beaucoup trop loin. Il y a une différence entre donner la parole à quelqu'un ou évoquer ses activités ou ces déclarations. Je donnerai un exemple ici. En Belgique, nous avons, et ne vous méprenez pas sur la comparaison, mais c'est pour vous donner un schéma de pensée, nous avons une règle à la RTBF concernant les élus d'extrême droite. Nous ne donnons pas la parole aux élus d'extrême droite en direct à la RTBF. Nous pratiquons ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Mais on s'interdit pas d'évoquer les activités de l'extrême droite pour que la population puisse savoir que c'est un groupe politique qui agit, qui tente de faire de l'influence. On l'évoque avec un regard critique, mais on ne fait pas le blackout total. Ici, j'ai l'impression qu'on empêche les Congolais de comprendre ce qui se passe dans leur pays. Et c'est a priori ça, le rôle de la presse. Alors, le ministre de la Communication justifie cette décision en disant que le Congo vit une situation de crise et qu'une situation de crise impose une gestion de crise. Il parle même de guerre informationnelle en cours. Alors, on va pas nier que la propagande fait rage sur les réseaux sociaux, je le vois moi-même, hein, notamment tout ce qui émane de l'AFC M23 sur les réseaux sociaux. Même la Belgique en a fait les frais. On a vu qu'après la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, la Belgique a été accusée par des canaux d'information qui venaient directement du M23. La Belgique a été accusée d'avoir déployé des troupes sur le terrain aux côtés des FARDC avec des images à l'appui. Ce sont des fake news. On sait que la Belgique n'a que 8 soldats à Kindu pour de l'instruction. Et ça date de bien avant la reprise de l'offensive du M23. Donc on ne va pas nier qu'il y ait une volonté de mener cette guerre informationnelle, comme le dit Patrick Mouyaya, mais moi ce qui m'interpelle vraiment dans cette décision du CESAC, c'est qu'en agissant de la sorte, eh bien le CESAC agit exactement comme l'AFC M23, qui interdit dans les zones qu'il contrôle la diffusion des informations émanant du gouvernement congolais, qui interdit les informations des partis politiques, dont les activités sont défendues, elles aussi, dans les zones dites libérées selon la propagande du M23. Ils interdisent également les émissions de débat avec des invités, non seulement de partis politiques, mais aussi de la société civile. Donc, et que tous ceux qui ne respectent pas ces interdictions se menaçaient d'être envoyés dans un centre de rééducation. Ce que pratique le M23 AFC, ce sont des pratiques dignes d'une dictature, c'est tel qu'on les connaît en Corée du Nord ou en Chine. Il est évident que c'est là une atteinte grave à la liberté de la presse. Tous les journalistes que je connais qui vivent actuellement sous le contrôle du M23 s'en plaignent de façon confidentielle, justement par crainte de représailles. Mais si le M23 est un groupe terroriste, comme l'affirme le gouvernement, je pense que le gouvernement a tout intérêt à se démarquer de ce groupe terroriste, notamment en protégeant la liberté de la presse, qui est déjà, je trouve, assez précaire en République démocratique du Congo.
Oui, Benoît Faït, le président du CESAC est passé dans notre émission Parole aux auditeurs des mercredi dernier, et il a précisé qu'il ne s'agit pas d'interdire de parler des Kabila, mais plutôt d'interdire de faire l'apologie de la violence lorsqu'on évoque Kabila. Et donc, en d'autres termes, dans les processus de diffusion d'une information relative, n'est-ce pas, à Kabila, il faut choisir un angle à travers lequel on ne justifie pas son action, mais plutôt on la condamne, on la dénonce.
Oui, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il est écrit dans le document officiel qui date du 2 juin, c'est qu'il est interdit de diffuser, relier et même de commenter
des activités. Et donc, il y a une différence entre ce qu'il a dit sur votre antenne et c'est ce qu'il a écrit. Alors, à quoi faut-il se fier? À ce qui est écrit ou c'est ce qui a été dit sur Radio Okapi? Rien que ce flou-là n'est pas de nature à favoriser un exercice libre de la presse avec des balises claires. Et donc, moi, je m'en inquiète. J'ai pour ma part, le souvenir d'avoir été à Kinshasa au moment de la chute de Bukavu. À l'époque, le président du CESAC avait été très très clair. Il avait interdit à tout journaliste de commenter l'offensive armée et les prises des éventuelles villes avant que le gouvernement ne l'annonce lui-même. Donc moi, je me suis retrouvé dans une situation très très particulière à Kinshasa, en direct sur la RTBF, à ne pas pouvoir annoncer la chute de Bukavu, alors que toutes les informations, toutes les sources concordantes que j'avais démontré que c'était le cas, j'ai dû attendre plusieurs jours d'être rentré en Belgique pour pouvoir dire quelque chose que tout le monde savait déjà. Je ne pense pas, malgré le contexte extrêmement compliqué de la guerre et de la guerre informationnelle, comme l'a dit Patrick Mouyaya, qu'il faut absolument pas nier, que cette gestion de la presse soit de nature à améliorer la compréhension du public congolais de la situation présente.
Merci Madame Chantal Faïda Moulenga Biuma. Au-delà de cette mesure du CESAC, dès lors que Kabila lui-même a opté de rentrer au pays par Goma, ville sous occupation de la rébellion AFC M23, est-ce qu'il ne s'est pas lui-même transformé, n'est-ce pas, en une cible pour les pouvoirs de Kinshasa?
Je pense que la décision du CESAC soulève véritablement des questions fondamentales sur l'état de la liberté de la presse en RDC et la jeunesse même de la démocratie congolaise. La position de l'ancien président de la RDC, toutes ses déclarations, ses prises de position, pour l'instant, du point de vue judiciaire, nous n'avons pas de verdict les condamnant qui puisse interdire d'écouter ses prises de position ou son opinion face à la marche du pays, parce que dans son speech, il avait déclaré qu'il venait à secourir la nation qui était en danger. Et donc, je pense qu'il faudrait pouvoir collaborer avec la justice pour avoir un verdict et sur base de ces verdicts, prendre des positions. Mais aujourd'hui, l'institution qui doit réguler les secteurs de la presse s'érige en pouvoir judiciaire. Et donc, on est un peu perdu. On a besoin vraiment que cette institution joue son rôle d'appui à la démocratie pour que nous ayons la crédibilité des informations, nous en tant que population, parce que nous devons consommer ce qui est juste, vérifié, authentifié, plutôt que de se fier aux rumeurs ou aux informations non vérifiées qui viennent des médias étrangers ou des canaux non authentifiés ou non contrôlables par notre pouvoir. Donc là, les CESAC risquent de perdre la population du point de vue source d'information. Si on doit se fier aux rumeurs dans les réseaux sociaux ou dans les presses étrangères et que notre pays ne nous donne pas la bonne information sur la personne de l'ancien chef de l'État, les gens seront à l'affût de l'information, n'importe laquelle, et ils vont certifier cela. Et ça peut même amener à des manifestations citoyennes qui ne seront pas contrôlées dans les pays, alors que ce sont des rumeurs. Donc on a besoin que la justice puisse collaborer avec les CESAC pour donner la bonne information sur la position actuelle du gouvernement avec l'ancien président. Surtout que à Doha, nous voyons les négociations qui se poursuivent. Bien sûr, il y a des blocages. Mais aujourd'hui, on parle d'un mouvement terroriste, mais on est sous la table avec ces mouvements terroristes et on ne donne pas l'éclairage à la population sur ce que nous voulons et on nous donne une autre information. Donc, on veut un peu divertir la population qui est en train de suivre l'évolution de la quête de la paix dans les pays, dans la partie est du pays, surtout qu'il y a des vies humaines qui empathisent face à cette guerre récurrente que nous condamnons fermement.
Merci Blaise Zainda. Est-il facile dans un contexte de guerre comme le nôtre d'adapter une information qui fait état des activités de Kabila ou de son parti politique de PPRD au desiderata du pouvoir? Est-ce qu'il est facile?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Hein. C'est des attitudes responsables dans cette communication en ce moment précis. Mais il ne faudrait pas non plus qu'en voulant, dans cet état des choses qui apparaît délicat, que l'on puisse être dans une optique de pouvoir nous ramener vers un entonnoir communicationnel du genre la Pravda, hein, ces quotidiens russes là, à l'époque de communiste totalitaire fondé par Lénine qui doit impérativement ne nous donner qu'une information qui n'a qu'une seule coloration. Là, ce ne serait pas promouvoir les valeurs de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas que nous ici, qui sommes au siège des institutions, qui avons des partis politiques, qui avons des structures qui fonctionnent, des structures démocratiques qui fonctionnent, que nous puissions avoir des attitudes qui nous ramènent dans des postures comme si on serait sous occupation ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme l'a dit le confrère de la RTBF, il y a possibilité de donner une information sans faire la promotion de cette information-là. C'est différent. C'est différent. Il y a deux choses différentes entre donner une information et faire de la promotion. Et là, nous l'avons vécu avec le même CSA qui a existé lorsque Goma a été occupé plusieurs fois. Il y avait des animateurs en son temps qui ont eu des attitudes tout à fait républicaines qui ont permis à la population de connaître la situation et d'échanger des fusils d'épaule en ce qui concerne la conception, la perception de paix sur le terrain. Et c'est, je ne pense pas qu'il y ait des cerveaux communicationnels en son information et la communication qui manquent pour que le président du CSAC se fasse entourer des personnes valablement constituées en ce qui concerne les SIC, pour que cette personne-là lui donne le brèche devant lui permettre, parce que déjà au niveau de la plénière, nous avons des journalistes valeureux compétents qui peuvent donner des orientations précises pour que ces mesures conservatoires prises par le président du CSAC et du répondant et soient assis sur des bases juridiques bien fondées. Que nous plongions dans ce que j'ai dit, cette pravda que je pense être indélicate en ces instants où nous sommes vers la recherche de solutions en ce qui concerne la République démocratique du Congo et ses crises.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Première Dame avec le Karmapa et on se retrouve juste après.
Mobale Rodiga Bea Bay Pika Pende Mama. Le premier dame, Maman Olive Lembe, Maman Antoinette Sassou.
C'était Première Dame, une composition des Karmapa. Je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Aïnda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, membre de la société civile, elle est militante des droits spécifiques des femmes. Elle est également coach, écrivaine et coordonnatrice nationale de l'ONG OEMA, ASBL spécialisée dans les questions de gouvernance et des droits humains. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. L'Union européenne exprime sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation humanitaire dans les provinces du nord-sud Kivu, où plusieurs localités sont encore contrôlées par l'ACM-23. Son ambassadeur en RDC l'a déclaré mardi 3 juin à Beni, chef-lieu provisoire du nord Kivu. Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a conduit une mission conjointe de quelques heures comprenant 9 ambassadeurs européens accrédités à Kinshasa. Cette visite visait à lancer 2 projets financé par l'Union européenne pour renforcer la paix, la résilience et la cohésion sociale en Ituri et au Nord Kivu. Avant de rentrer à Kinshasa, Nicolas Berlanga a insisté sur l'intégration de la dimension humanitaire dans toutes les discussions en cours autour de la paix dans l'Est de la RDC. Madame Chantal Faïda Moulenga-Biouma, vous avez choisi justement de nous parler de la situation humanitaire des populations retournées et déplacées dans les provinces du Nord Kivu. On vous écoute.
Merci beaucoup. Donc, je voulais évoquer que la situation d'insécurité qui est désormais chronique dans la partie est de la RDC, on ne sent pas l'implication des pouvoirs publics pour appuyer et soutenir les retours des compatriotes déplacés dans leur milieu d'origine. Et nous nous sommes basés sur le rapport de l'ONU de OCHA de 2025, février 2025, qui renseigne que 2,1 millions de personnes sont retournées dans leur milieu d'origine, principalement dans les territoires de Massi, Siro, Tchuru et Walikale, en RDC. Également au OIM qui a identifié 54% des ménages retournés suite à l'amélioration de la situation sécuritaire, mais qui a relevé que cette amélioration est de courte durée. Les populations ou les ménages, dès qu'ils sont dans leur milieu d'origine, ils font face à d'autres types de menaces sécuritaires, ce qui les amène de nouveau à se déplacer. Donc les retournés sont butés à plusieurs difficultés et les défis majeurs sont l'insécurité persistante et même des nouveaux déplacements.
Est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on sait qu'effectivement ils sont arrivés dans leur village d'origine?
Oui, nous avons MSF qui a renseigné qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont retournées dans leur milieu d'origine, mais étaient en manque de tout, parce qu'il y a ceux qui ont perdu leur maison, les hôpitaux, les écoles, les marchés, et donc quand ils rentrent sans un kit de retour minimal, la situation devient de plus en plus précaire pour ces populations. Nous avons également la présence des restes explosifs des guerres qui menacent la sécurité des populations civiles dans plusieurs localités. Et même dans la ville de Goma, nous avons suivi qu'il y a des sensibilisations des organismes nationaux pour que les enfants, les jeunes ne puissent pas toucher à des engins inconnus dans leur activité journalière. Nous avons aussi des attaques des groupes armés qui se poursuivent même dans les zones de retour. Et même quand on parle des Beni, il y a les ADF qui continuent à provoquer des meurtres et des enlèvements dans les zones de retour de la population. L'accès aux services de base est limité, donc l'insécurité alimentaire s'est aggravée. Nous avons aussi les questions des protections, les violences basées sur les genres se sont accentuées, où les populations sont face à plusieurs autres groupes armés qui continuent de les insécuriser et même à piller leurs ressources. La grande problématique ou les pistes de solutions que nous recommandons au pouvoir public, c'est de maintenir les contacts directs et indirects avec la population, même s'il s'agit des zones sous occupation. Avec les leaders sociaux, avec les défenseurs des droits humains qui sont en exil ou en fuite, ils font un travail remarquable de monitoring des situations de violation des droits humains. Mais du côté du pouvoir central, Kinshasa, parce que nous voulons que notre pays demeure uni et qu'il n'y ait pas de scission, qu'il n'y ait pas de déconsidération d'autres populations parce que sous occupation, nous avons besoin qu'il y ait l'accès humanitaire qui soit ouvert pour que les organismes nationaux et internationaux puissent faire parvenir l'aide humanitaire aux populations vulnérables et dans les besoins. Nous avons également besoin que la pression diplomatique puisse garantir la restauration de l'autorité de l'État dans les meilleurs délais pour que nous puissions vivre dans une nation souveraine, unie et stable. Donc ça, c'est les plaidoyers que nous lançons. Et beaucoup plus les accès au système de santé, parce que nous avons vu que dans la partie du Nord Kivu, il y a beaucoup de centres de santé ou des centres hospitaliers qui sont en manque des médicaments. Ils sont en déficit et ne savent plus être approvisionnés à cause des attaques des rebelles qui se poursuivent. Et on a vu des enfants qui ont passé plus de 7 mois sans accès au vaccin. Et là, c'est un défi, parce que quand on a dépassé un certain âge, il est très difficile de récupérer certains vaccins. Et donc, nous appelons le pouvoir public à ne plus pérenniser les processus des négociations, des dialogues pour pouvoir ramener l'intégrité de la communication sur l'ensemble du territoire national. C'est ça notre plaidoyer, et que cessent ces blackouts ou ces silences face à la situation humanitaire des populations qui vivent dans les provinces sous occupation. C'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons, que les ministères des Affaires sociales, les ministères des Affaires humanitaires puissent passer par les organismes nationaux, parce que OCHA, PAM et tous les autres organismes ont accès à ces zones sous occupation. Donc ils peuvent prendre l'aide du gouvernement congolais et les faire parvenir aux populations qui sont aujourd'hui prises en otage par la rébellion.
Merci. Benoît Faït, au-delà, n'est-ce pas, de cette part du gouvernement congolais, on ne sent pas, n'est-ce pas, l'implication du gouvernement de Kinshasa dans la résolution, n'est-ce pas, de cette question humanitaire. Mais au-delà de tout ça, on a l'impression que la situation humanitaire en RDC ne préoccupe pas assez les bailleurs, hein, comparativement à d'autres crises à travers le monde. Ce constat est-il réel ou c'est juste une impression?
Non, Guy, je dois malheureusement confirmer que vous voyez juste. Je dois moi-même vous dire que ici à la RTBF, à Bruxelles, ce qui se passe à l'est du Congo pour l'instant est complètement occulté par d'autres crises qui ne sont pas moins graves. On va certainement pas faire une échelle entre les drames et les souffrances humaines, mais vu d'Europe, je dois bien malheureusement vous confirmer qu'on se préoccupe plus de ce qui se passe en Ukraine, on se préoccupe plus de ce qui se passe à Gaza, sans réelle efficacité, il faut bien le reconnaître, la population de Gaza souffre de façon atroce, mais médiatiquement ça occupe plus de place, et le Congo est complètement relégué, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans finalement que la communauté dite internationale, on sait bien vous et moi et tous les invités, auditeurs et auditrices de Radio Kapi le savent comme nous, que quand on parle de communauté internationale, on parle surtout de pays occidentaux, et ces pays occidentaux ont délaissé, en tout cas du point de vue de l'implication qu'ils auraient dû avoir depuis déjà une trentaine d'années. La population congolaise est complètement délaissée, n'intéresse plus, on dirait. Et on sait pourtant que la communauté internationale, ces pays occidentaux, ont des réels intérêts dans la région. Et donc cette hypocrisie existe toujours. Je dois bien confirmer, vous voyez juste, et on ne peut qu'espérer qu'à force de travail journalistique, hein, les journalistes occidentaux qui continuent quand même à essayer de mettre au devant de la scène médiatique la réalité congolaise, essayent aussi d'interpeller directement et indirectement la population, les pouvoirs publics, pour dire n'oubliez pas le Congo, ce qui se joue dans cette région du monde est un drame absolu. Mais est-ce que maintenant, et la question là je vais la laisser ouverte, est-ce que la population européenne aujourd'hui pense à autre chose qu'à son propre nombril? J'ai bien peur qu'en posant la question, je sois en train d'y répondre.
Merci Blaise Vainda, on va finir cette émission avec vous. Et beaucoup d'observateurs pensent que la solution idoine à cette crise humanitaire, c'est la fin de la guerre. Mais maintenant, malheureusement, la guerre n'est pas encore terminée. Et or, il y a des urgences, il y a des populations qu'il faut secourir, qu'il faut assister. Et qu'est-ce que vous proposerez entre-temps? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat?
Malheureusement, comme l'a dit le frère et comme l'a si bien dit Madame Faïda, la situation elle a tellement duré que plus elle dure, plus elle se pérennise et malheureusement, plus elle se normalise. Et voilà ce qui fait que l'on ne s'émeut pas beaucoup face à la situation humanitaire dramatique de la République démocratique du Congo, au même titre que ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine. Mais nous pensons qu'il est préférable, et heureusement j'apprécie beaucoup les thèmes que vous avez développés dans cette émission aujourd'hui, le tout repose sur la nécessité de disposer d'une paix durable en République démocratique du Congo. si nous avons une paix durable, on ne saura pas aller outre mesure. Regardez par exemple, le PAM, Programme Alimentaire Mondial, parle de 500 millions de dollars à mobiliser ou requis par le PAM pour résorber la crise humanitaire en ce qui concerne des tas de choses. Est-ce que vous comprenez que c'est beaucoup d'argent à mobiliser, mais cette communauté internationale-là, que l'on nomme telle qu'elle, est-ce qu'elle est vraiment très ancrée sur la situation qui prévaut en RDC, à entendre le confrère depuis Bruxelles? Non. Alors, quand est-ce que nous continuerons à pleurer si nous n'arrivons pas à résorber cette situation? Tant que nous avons des crises à l'interne, il nous sera difficile de disposer d'une population saine. Mettons un terme à la situation d'insécurité, à la situation de crise politique, à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, et on aura moins de population en déplacement et chacun mangera à sa faim. Nous qui avons visité, qui visitons régulièrement à l'intérieur du pays, il y a de la nourriture pour tout le monde, pourvu qu'il existe la paix et les différentes voies d'accès. Voilà.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Chantal Faïda Moulenga Viuma, Benoît Faït, Blaise Zainda. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous dédions cette émission à M. Léonard Moulamba, appelé affectueusement Papa Léo, ancien rédacteur en chef des radios Okapi qui vient de nous quitter. On va donc lui rendre hommage en écoutant Testament Yaboule, une composition de Simaro Lutumba Massia avec la voix des Malage de Lugendo. Et on se retrouve le samedi prochain.
Bon Zambé, au salabo mouiwa moto, moto roya okutana malade. Mondele pe asali kisi po moto abika. Vraiment ce que zreki po na mbongo nde bo wule ya kufite. Po fami asali nyonso Nzambe po nanini liwa. Ah, somo nandima kite
Testamao, baneko na kotanga na kozongelai. Maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai. Nazangi na mokilio, bafami bosali ngai mabe. Masia na sarafele wapio mokilie sirisinga lolendo lelo nandimi. Testamao, baneko na kotanga na kozongelai. Maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai. Nazangi na mokilio, bine mibole singa poazo. Luambo na salafiele watio, mokilie siri singa lolendo lelo nandimi. Liwa ya boule, sangolo kola nkake na matoye. Epe singa liboma, nazangi likambonga na sala. Mongwe loko pamba, eko kiko somba ni wase. Yabo woleo, lobina pasio tali nga oseki. Opekisi nga ikolela, eka sola kake nga okobika. Soko yeba tozali kokende, oko singa neko kosa. Na keiko lala yo kati motema, atali loba suka jose o me chante o mama. Yabo woleo, lobina pasio Talinga oleli, obo melinga sekeleo, kaso yeba tioko kupa, olobina ngana kene kolalai, oko singa neko kosa, sima nanga yo katimo tema, olinga kina zalateo, choseo me chante mama. Ya choseo, boule o sali ngai mabe, ngai matie. Nasoma neko na moka ninyo baninga nyoso moto na neko na ye Jose osili singa lolendo e na lala wapio mama. Nzela ya Bruxelles, Paris na Ronde bakotu na ngai na kozange yano. Niloba ninyo tiki na ye bisabango ngai maina miso e Jose. Bongulego, butu ya lendi na moni onandoto. Olate kitoko epe usalisi pesi ya monene. Sima ya mwangongo bengi nga pembe nye. Olakisi nga nebana kasyo boy kotala nga ina miso. Ule nanga usili kintu kandoto ya moku ya mama. Bongulego,
mito ya minga na koseka yona pasi ya liwa kasolinga kinga na yebateo olo binanga oyo kimwanzalae nalambela yo pepe suko na keikola masimo kati motema olinga kina zala teo liwe yo kinga soni mama boule nanga ye butuana kutuna lala kiteo mamwa makolela esuke komi kotelema simwe mwangonga babetinda koi nakembango kofungola namoni fami mobimba bakolela boule nanga kuti boule okonsinga ye mama
testamao bamekona kotanga na kozongela maloba ya boule baningana kotanga na kolela nazangi na mokili obinemi bolesinga poizo soneri nasala fele wapi obinemi basali feti olelo nasutuki liwa ya boule sango lokola nkake na matoye epesinga liboma nazangi likambonga nasala mongwelo kopama ekoki kosomba liwa te ya boule o nzela yokei toyebi te mama liwa na yo nzela yokei toyebi te lelo nandimi mongwelo kopama ekoki kosomba liwa te pami mpe tolemaki yo te tokotolo nini tokuti te shozese liwa ye mama ya José mbuhule osali ngai mabe ngai matiye na defa ndeko na famiye nine baninga nyonso moto na ndeko na ye José osilisinga basiele nalala watio mama sisina nedi alila na fransi bakotuna ngai wapi mamae liloba nini otiki nayebisa bana ngai se misere o José boule na ngai ye butuana kutu nalalaki teo banoto mabeo na se apongi nakomi kokanga nsima ya mwangonga babetindakoi nakembangu kofungola nakuti pami mobimba bakolela boule na ngai okuti boule okoyi biso ye mama ya boule mardi na midio ya minga na koseka yona mpasi ya liwa kasolingaki nga na yeba teo olobi nanga oyo kimwanzalai nalombela yo pepe suku nakeikola masimo kati motema olingaki na nzala teo José okinga soni mama malu ya lumambe na bongole botiki suza na kolela azangi bakamarade moziki soki lobalati nde moku ya liwa ezali nzela ya moto nyonso bino boweli kokende mboka bokei biso toyebi teo kobombela biso esika mokolo tokoyao malu na bowuleu bamama ya pekoza ye likambo lizinga lileki monene bamiya matonge likambo lizinga lipesinga libomae moziki sankilo e likambo lizinga lilekinga nzoto kosala emalusanso e likambo lizinga likomisinga zoba nga maoze mwana ntuka na kota sankilo likolo na yoy nakomi komituna esoki na se ya liwa tokokutanaka eske nakomona boule lisusu atikililoba te o José wa basanto mama